Alors bonsoir à tous. Nous allons poursuivre cette soirée, ce séminaire sur les ségrégations par trois interventions. La première de David Bernard, qui est psychanalyste à Rennes. Ensuite, la seconde sera celle de Patrick Barillot, qui est psychanalyste à Paris. Enfin, nous aurons celle de Adrien Kanchmal, qui est psychanalyste également à Paris. Donc, nous allons commencer par David. Merci.
Alors, donc, le fameux comment ça marche. Donc, j'ai choisi d'intituler mon propos « Le sens de la ségrégation ». Alors, dans le rapport de la différence sexuelle, les psychanalystes n'auront pas finalement échappé à la grande espérance de pouvoir définir deux universels. Une moitié homme, vous savez sans doute que Lacan proposait d'écrire cela « moi, trait d'union, pied », une moitié homme et une moitié femme. Ils auront pris pour cela, commente Lacan dans l'étourdi, c'est le texte sur lequel je vais m'appuyer. Hein. Ils auront pris pour cela, donc, commente Lacan dans l'étourdi, ce qui valait pour tout, pour tous, pour tous les hommes, à savoir le phallus, espérant en faire aussi la référence pour toutes les femmes. Donc, il y a ceux qui auraient le phallus, et il y a celle qui se désespérerait de ne pas l'avoir. Autrement dit, ainsi que l'a remarqué Jacques Derrida, on a ici un abord de la différence sexuelle qui fonctionne par opposition et qui finalement, à ne prendre ainsi que pour référence que le phallus, loin de faire place à l'altérité, loin de faire place à la différence, en fait, je cite Derrida, il efface les différences et reconduit à l'homogène. Donc, une première conclusion s'impose déjà. La dite différence sexuelle, qui se référait uniquement au phallus, la dite différence sexuelle n'en était pas une. Alors, je propose à présent de m'arrêter sur la structure. La structure de cette tentative d'universalisation phallique pour essayer de montrer en quoi la ségrégation, me semble-t-il, procède par la voie du sens et comment elle concerne le dire. Alors premièrement, qu'est-ce qui définit, selon Lacan, ce qu'il nommera dans ce texte, pas pour rien, les races d'hommes ? Réponse : un lieu, nous dit-il. Un lieu au sens, me semble-t-il, d'Heidegger. C'est-à-dire ce qui permettrait, je cite Heidegger, un rassemblement de l'être. Du coup, la question devient, comment ce lieu pourrait-il assurer une substance d'être ? Réponse de Lacan. Ces lieux, nous dit-il, ce repère de faire sens du semblant. Autrement dit, la race des hommes procède d'un effet de discours par lequel le phallus sera élevé au rang de signifiant maître. Signifiant maître que Lacan propose d'écrire dans ce texte, signifiant maître, M apostrophe. Et cela pour promettre un gain ontologique, un gain au bout duquel il serait possible d'être vraiment homme, aussi bien que vraiment femme. Dans ce discours, voilà donc ce qu'au phallus, écrit Lacan, on lui fait dire, à savoir donc un mensonge. Et à cela, on sait ce qu'il opposera, il n'y a que semblant d'homme et semblant de femme. Il y a donc, au principe de la race des hommes, ce que Lacan nommera alors, ce terme m'a arrêté, une décence établie. Une décence établie. Alors la décence, dans son équivoque même, est à entendre ici dans son rapport au sens. Il s'agira d'une décence à l'endroit du semblant phallique, ménageant son effet de voile, de mensonge, de fake news, dirait Nicolas, NBN, et entendant imposer ce semblant pour tous et pour toutes. Bien d'autres métaphores de Lacan, au ton de plaisanterie, comme il dit, seront ainsi venues subtilement épingler cette décence à l'égard du semblant, la révélant au fondement de ces tout petits mondes, comme écrivait David Lodge, de ces tout petits mondes ségrégants, quels qu'ils soient. La mondanité, écrit-il, et il écrit ça avec une majuscule mondanité, c'est quand même bien trouvé, la mondanité ferait donc leur essence à ces tout petits mondes. Et en somme, qu'il serait doux de se promener en ce lieu de l'homme, le long, nous dit Lacan, de ces allées élégantes, ajoutons, avec le petit sifflotement de celui qui, main jointe derrière le dos, feint d'ignorer le réel. Alors, face à ces égards mondains, l'inconscient, quant à lui, n'apportera, dit Lacan, que des rires peu décents. Des rires peu décents. Alors tâchons du coup de préciser ce qu'une telle décence entendait rejeter, voire ségréguer. Pour cela, je reprends les termes précis par lesquels Lacan relève et interprète la façon donc dont les psychanalystes auront voulu reporter sur la moitié femme ce qui valait pour la moitié homme. Il écrit ceci, « Ce report sur l'autre démontre assez ce qu'il en est de l'ab, trait d'union, sens, du rapport sexuel. » Et il ajoute, « Mais c'est plutôt cet ab sens le forcer. » Autrement dit, il s'est opéré dans ce report un forçage de l'absence première du rapport sexuel, ou de l'absence première plutôt. La hiérarchie, dira-t-il, la hiérarchie ne se soutient que de gérer le sens. Il écrira ça plus tard. Je propose d'ajouter la hiérarchie aussi bien que la ségrégation, en tant qu'elle s'opérera à partir de ce forçage de l'absence première. Le phallus sera ainsi élevé au rang de signifiant maître pour mieux rejeter ce qui fait, dit-il, le scandale du discours psychanalytique. Autrement dit, la décence de l'homme, majuscule, la décence de l'homme avait quelque chose d'une fausse pudeur, d'un chut, visant à voiler l'absence et à tenter d'imposer pour toutes les femmes le sens phallique que l'on voulait commun. Alors, au regard de cette décence de l'homme et du silence qu'elle impose, j'en viens alors à ce que Lacan situera du côté des femmes, qu'il va proposer de nommer, d'ailleurs, l'impudence du dire. Une parole impudente désigne une parole qui ne ménage pas les semblants et qui osera dévoiler une vérité. De cette impudence, Lacan va donner des raisons précises, des raisons qui concernent la jouissance. Je vais proposer de commenter cela, il y a un nom de deux ici. Disant, Lacan donc, que pour les hommes, l'amour, ça va sans dire. L'amour, ça va sans dire du fait de leur rapport à la jouissance phallique. Et il souligne la différence avec les femmes. Il la souligne ainsi, si pour l'homme, ça va sans dire, parce que la jouissance couvre tout, la jouissance de la femme, elle, ne va pas sans dire. C'est-à-dire, précise-t-il, sans le dire de la vérité. Et de la vérité du non-rapport. Alors, évidemment, il faut ajouter à cela que ce dire de vérité, évidemment, ne se réduit pas au dit d'une femme, quoi qu'il puisse de cela se déduire. On pourrait plutôt souligner que, prenant son origine du patou, ce dire restera un mi-dire. Alors, il y a certes dans ce mi-dire un effet de voile, mais un effet de voile qui, me semble-t-il, ne relève pas du voile phallique. Qui ne relève pas du voile phallique, mais plutôt de ce que Lacan empruntera à Heidegger, le reformulant après à sa façon, mais qu'Heidegger propose d'appeler un dé-trait d'union voilement. Un dé-trait d'union voilement, c'est-à-dire quelque chose qui voile, qui dévoile plutôt, et qui dévoile que quelque chose restera voilé, en partie. Heidegger parlait de cela à propos de la pudeur et de la vérité. Alors j'en déduis que la ségrégation à l'endroit des femmes se portera notamment à l'endroit de se dire d'une femme, de se dire impudent à dévoiler ce qui devait être tu. Et quoi donc ? Sinon, on peut dire ainsi, le manque du dernier mot. Nier la logique du pour-tout, écrit Lacan aussi dans l'étourdi, cela ne se fait pas. Cela ne se fait pas. Et plus généralement, j'en conclus que la ségrégation, relevant d'une logique du tout, consiste toujours, finalement, dans la volonté de forclore le patou, quelle que soit son incarnation. Une femme, l'étranger, l'homosexuel, la jeunesse, etc. On pourrait poursuivre. Autrement dit, à l'impossible à dire, elle substitue son mot d'ordre. Son mot d'ordre, voulant en faire pour tous et pour toutes, en effet le dernier mot bien sûr identitaire. Alors, il me semble qu'il s'éclaire, en partie du moins, qu'il s'éclaire à partir de là en quoi il pourra être reproché, à une femme d'échapper à l'universalisation du phallus, c'est-à-dire de ne pas se ranger dans la race des hommes semblables entre eux à l'appui du semblant phallique. Et je note d'ailleurs que si pour Lacan il y aurait un lieu de l'homme, il n'y a justement pas un lieu de la femme. Raison peut-être pour laquelle la ségrégation entre les sexes en sera souvent passée par la volonté d'assigner toutes les femmes à résidence, celle de l'homme, avec une majuscule. Plus généralement, le racisme, dans son rapport à l'espace, c'est la question que je me suis posée, ne serait-il pas aussi la volonté furieuse de situer ce qui, justement, ne peut pas, dit Lacan, avoir lieu. C'est l'une de ses formules à propos du non-rapport sexuel. Ce qui ne peut pas avoir lieu. Et d'ailleurs, dira-t-il, s'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est que l'autre est d'une autre race. C'est une phrase en télévision, dans la version orale de télévision, pas dans la version écrite. Il se pourrait donc que la montée du racisme que conditionne le discours capitaliste s'accompagne aussi de la montée d'une ségrégation à l'endroit des femmes. Je conclue sur une dernière remarque. Au terme de ce développement, il apparaît donc qu'à la différence de bien des psychanalystes, Lacan aura su prendre son départ concernant la différence des sexes, non de l'homme, mais des femmes. Voilà, j'ai essayé de m'en tenir aux 6000
oui,
que j'ai dépassé un peu.
Exactement, merci beaucoup David.